Parce que moi, je cherchais quand même une question déjeuner qui allait fitter, qui allait fonctionner avec le thème du transport en commun. Puis, je cherchais quelque chose, qu'est-ce qui se mange bien dans le transport en commun? Puis, j'ai pensé à les muffins de déjeuner. Toi, ça serait quoi la définition? Ça serait quoi les saveurs d'un muffin de déjeuner? Selon toi, le meilleur, là, tu peux choisir. Je ne vais pas en avoir beaucoup, mais ça serait quoi ton préféré?
Est-ce que tu parles d'un muffin déjeuner, genre un sandwich ou un muffin plus comme sucré?
Muffin sucré, là.
Pour un déjeuner, moi, je dirais muffin aux carottes, c'est pas mal mon préféré.
Ah, ouais.
Ben, c'est comme pas trop un dessert, mais en même temps, c'est pas plate comme aux noix, je dirais.
Ouais, je comprends. Moi, je t'avouerais, je suis très banane pécane, c'est tellement bon. J'aime beaucoup les bananes pécanes. Puis, tu sais, des fois, dans des cafés, il y a un banane pécane, puis comme un morceau de banane dessus.
Oui.
Comme un vrai
Sec.
morceau de banane. Mais pas sec, mais il a l'air. Il n'y a pas l'air sec. Non, un morceau de banane, comme tu sais, tu vois qu'ils ont cuit avec un morceau de banane dessus. Ça, c'est comme. C'est un
OK.
go-to. Ça, tout de suite,
T'es
Non, je peux
plus
pas.
banane pacane que banane chocolat?
Je pense que je suis plus banane pécane.
OK.
C'est un gros statement que je suis en train de dire, mais je suis plus banane pécane. Sans hésitation, parce que banane chocolat, c'est bon. Un pain aux bananes et chocolat. Mais banane pécane, c'est sous-estimé. Et pour moi, c'est un immense classique. Vrai, vraiment. Et d'ailleurs, avant qu'on continue, Camille, là, les gens venaient déjà un peu nous entendre. On va parler aujourd'hui de transport en commun. Mais avant tout, j'aimerais que tu te présentes. En fait, toi, tu es déjà venu au
Oui.
podcast pour nous parler des élections municipales. Si les gens veulent l'écouter, mais là, on parlait comme des élections. Mais pour les gens qui n'ont jamais écouté, qui es-tu, Camille?
Oui, ben, je suis journaliste pour 24 heures. Pour les gens qui ne connaissent pas, là, très rapidement, c'est un média numérique. On s'adresse principalement aux 18-35 ans. On parle d'environnement, d'enjeux sociaux, d'actualité et pas mal de transport. Entre autres, parce qu'on a un hebdo qui est distribué dans le métro, là, donc notre lectorat prend beaucoup le transport en commun. Puis, ben, ça fait quelques années, là, que je me spécialise justement tranquillement, là, dans les reportages qui concernent le transport, surtout le transport collectif et l'environnement. Puis, ben, à part ça, là, je participe aussi, là, à aider des collègues journalistes à accomplir leurs reportages. Puis, je fais aussi des réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Là, c'est l'aspect un peu mon parcours professionnel. Puis sinon, ben, je suis une très grande fan de transport en commun, une utilisatrice passionnée des transports en commun.
C'est ça. Puis d'ailleurs, c'est ça, le 24 heures à la base, surtout pour les gens, ben, je ne pense pas qu'il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont nécessairement jamais connu ça, mais avant tout, 24 heures, c'est un journal de métro, tu sais, dans le sens que c'est un journal qui était seulement distribué dans le métro. Puis là, maintenant c'est vraiment devenu un média numérique.
Exactement, c'est ça. Ben, comme tu as probablement remarqué, maintenant sur le métro, les gens sont plus sur leur cell que sur leur journal. C'est normal, là, ça partit d'une grande tendance dans la société. Puis c'est pour ça qu'on va rejoindre notre public où il est. Puis en ce moment, les 18-35, ben, c'est beaucoup sur leur cell. Fait que c'est là qu'on est.
Non, là, tu as dit que tu étais une grande passionnée des transports quand même. Pourquoi? D'où ça vient cette passion-là? Parce que c'est quand même, d'où ça vient?
Bien, je dirais que ça vient de mon arrivée à Montréal. Moi, je viens de Sherbrooke à la base, puis Sherbrooke, c'est pas le genre de ville qui te rend particulièrement fan du transport en commun. Quand je suis arrivée ici en 2016, j'ai vraiment rapidement été fascinée par le métro, là. Pour moi, c'était comme la colonne vertébrale de Montréal. C'est comme ça que j'ai découvert la ville. Puis je me suis mise à essayer de débarquer à chacune des stations pour explorer un petit peu autour des stations. Je trouvais ça vraiment le fun d'explorer, tu sais, la carte du métro, comment les stations avaient été construites, à quelle année. Je trouvais que c'était tellement une façon efficace de se déplacer puis de découvrir sa ville, puis que ça rendait libre. Puis pour moi, ça contrastait vraiment beaucoup avec mes années d'automobiliste à Sherbrooke, parce que j'avais une voiture quand j'habitais là-bas. Puis tu sais, pour moi, une voiture, c'était pas particulièrement le fun, c'était... Bon, oui, là, c'était simple, là, mais c'était beaucoup d'argent, beaucoup de gestion logistique, tu sais, le déneigement, les amendes, les changements d'huile. Je trouvais tellement que le métro à côté de ça, c'était comme la solution à tous les besoins de transport, c'est pour une ville comme Montréal. Bon. On peut nuancer ça, là, mais c'est vraiment la perspective que j'avais quand j'étais arrivée en 2016. Puis là, tranquillement, ben, je me suis mis à m'intéresser à tout le transport en commun au sens plus large du terme, là, les bus, les trains, le REM et compagnie. Puis
ouais.
C'est ça, ça a parti d'un amour pour le métro, je dirais.
Oui, puis ça, on va en parler de tout ça, de toutes les. C'est vraiment un épisode qui est consacré entièrement sur le transport en commun. Là. Les gens, vous allez voir, on va faire tout. On va parler du transport en commun au Québec, mais vous allez voir comment on va vraiment aborder la question en l'air. Mais c'est bon ce que tu disais, par exemple, de dire de découvrir la ville aussi pour un transport en commun. Moi, je trouve ça, c'est toujours intéressant dans le monde quand tu vas dans une autre ville, une autre grande ville, puis prendre le transport en commun, surtout le métro, là, ça va être métro à Paris. Moi, personnellement, je fais le métro à Paris ou le métro à New York. Tu sais, c'est comme tellement cool. Tu sais, c'est comme tellement un monde, tu as l'impression. Puis moi, ce que j'aime quand tu voyages puis tu prends le transport en commun, c'est que tu rentres vraiment dans le quotidien réel des gens qui vivent la ville. Là.
Oui, tout à fait. Puis je trouve que ça nous permet de comprendre une ville urbanistiquement aussi. Tu sais, il est où le cœur juste en regardant une carte de transport en commun, bien faite. Tu comprends un peu les couronnes, le développement. En tout cas, moi, je trouve que vraiment toute la compréhension d'une ville peut s'articuler souvent autour de son réseau de transport en commun. En tout cas, c'est une des choses que j'aime aussi avec ça.
Oui. Donc là, maintenant, pour commencer, là, j'aimerais que, quand on parle de transport commun dans la grande ville de Montréal, là, c'est quoi les différences, les grandes différences qu'il y a dans les différents systèmes? Mettons les...
Ouais, vraiment bonne question. Là. Le transport en commun, c'est quand même extrêmement comme complexe. Fait que là, je vais essayer de rendre ça le plus simple possible, mais il y a quand même quelques petits termes, effectivement, qu'il faut aborder au début, surtout si on veut avoir une discussion le plus d'ordre comme politique là-dessus. Il y a deux types de transports en commun au Québec, le public et le privé.
Le public, ça, c'est intéressant parce que quand tu me... Tu sais, on a fait une pré-entrevue, on en a parlé, mais des fois, cette distinction-là, même si je m'intéresse à la question, c'est vrai que de facto, quand on parle de transport en commun, pour nous, c'est public, tu sais, en quelque sorte. Ma réalité, c'est que le privé joue un grand rôle là-dedans.
Oui, puis en fait, je trouve ça intéressant d'en parler dès le début parce que ça va vraiment tout affecter par la suite. Le public, comme tu dis, c'est ce qui nous vient en tête parce que c'est ce qui concerne la majorité du transport en commun au Québec. C'est tout ce qu'on retrouve dans le Grand Montréal, le métro, le bus, les trains de banlieue, puis aussi dans les villes qui ont leur propre système de transport en commun qui reste à l'intérieur de la ville. Donc, je pense à Québec, Lévis, Sherbrooke, Saguenay, il y a plusieurs villes qui ont leur propre société de transport. C'est public dans le sens que c'est subventionné. Oui, on a des frais là, à payer, là, des billets, mais la majorité du système, c'est de l'argent public. Puis, le privé, c'est la plupart des transporteurs interurbains. Fait que, mettons, les autocars qui font Montréal-Québec, Montréal-Sherbrooke, Montréal-Gatineau, on les connaît sous des noms comme Limocar, Orléans Express, Autobus Maheu, si vous en avez déjà pris, pour aller dans certaines régions. Puis, en général, si vous n'êtes pas sûr si un transport est public ou privé, là, si ça vous coûte environ 3,50 un passage ou une dizaine de dollars pour un long trajet, c'est public. Puis, ça vous coûte comme 30, 50, 100 dollars, puis que vous vous dites, voyons, c'est-tu vraiment ce prix-là? Bien, c'est privé.
C'est un bon indicateur. Puis, admettons, là, si on parle côté gestion, là, tu as montré un peu rapidement c'est quoi la différence entre deux, mais comment ça fonctionne? C'est quoi les grands fonctionnements de gestion des transports en commun? Si, admettons, on parle par exemple du public, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'agents justement qui gèrent tout ça. C'est, des fois, on se mélange un peu dans tout ça.
Mm-hmm. Oui, effectivement. À la base, c'est une gouvernance municipale. Là, fait que c'est les villes qui gèrent et qui financent leur propre réseau de transport en commun, avec un appui financier de la part du gouvernement provincial. Fait que c'est facile à comprendre dans une ville comme Sherbrooke, mettons, qui se fait allouer un budget puis qui gère ses autobus. Mais dans le Grand Montréal, évidemment, c'est compliqué parce que ça n'aurait pas de sens de gérer ça en silo entre les différentes villes parce que la plupart du temps, beaucoup de gens prennent des services de transport en commun pour aller d'une de ces villes-là à une autre, t'sais, mettons, pour aller de Candiac à Montréal. Fait que il faut que ce soit comme des sociétés qui se parlent. Mettons, en 2023, là, à Montréal, ce qu'on retrouve comme gestionnaire de transports en commun, bien, il y a le plus connu, la STM, évidemment, qui gère le métro de Montréal puis les autobus montréalais. Il y a l'équivalent à Laval puis Longueuil. Ils ont chacune leur société de transport, la STL, le RTL, qui exploite essentiellement des autobus. Puis la dernière, qui est un peu moins connue pour les gens qui n'ont jamais à la prendre, c'est EXO. EXO, c'est un drôle de nom un peu pour la société de transport qui s'occupe de tous les autobus qui desservent les couronnes nord et sud au-delà de Laval et Longueuil, fait que des villes comme Belleuil, Blainville, Repentigny, Sorel-Tracy, et qui exploitent aussi 5 lignes de trains de banlieue, puis elles sont importantes, même si elles ne sont pas très connues, je pense, en général. On a 5 lignes de trains de banlieue à Montréal. Puis ces 4 sociétés de transport-là que je viens de parler, là, Montréal, Laval, Longueuil, les couronnes, c'est sous la gouverne de l'Autorité régionale de transport métropolitain, qui est comme une espèce de méga structure qui reçoit et distribue l'argent C'est du ministère des Transports. C'est eux qui ont uniformisé les types de transport là, récemment, en créant les zones ABCD.
Oui, c'est ça.
Qui déterminent les grandes orientations. C'est comme
le gros truc où le gros truc où tout le monde a chialé quand il y a une augmentation de prix, oui. C'est l'ARMT, l'Agence régionale des transports
métropolitains.
ARTM, oui. Merci.
C'est intéressant que tu dises l'augmentation, parce que pour une petite partie des gens, ça a été une augmentation, mais pour une grosse partie des gens, ça a été des diminutions. Tous ceux qui sont un peu plus loin de Montréal, pour eux, ça a été bénéfique. Mais,
Il faut mieux s'informer sur ces changements-là.
C'est qu'il y a quelques personnes qui se sont vraiment faites comme doubler leur prix de transport en commun, puis c'est pas banal, mais pour beaucoup d'autres, ça a été une diminution des coûts.
OK. Mais c'est ça. Donc, il y a comme chaque ville a leur petite agence. Mettons, STM, RTL, STL. Ensuite, tu as comme un entre-deux avec EXO qui gère comme les grands trucs. Puis, tout ça qui chapeaute ça, c'est l'Agence métropolitaine de transport. L'Agence régionale des transports.
Autorité régionale de transport métropolitain. Merci. Mais je ne te blâme pas de ne pas bien retenir le nom, parce qu'il n'est pas facile à retenir, puis que ça s'appelait avant l'AMT, là, qui est, je pense, l'Agence métropolitaine de transport.
Okay.
Mais tu sais, ça, je vous promets, là, c'est la partie la plus plate du podcast. Là. C'est comme la structure de tout ça n'est pas vraiment intéressante, mais en gros, là, l'ARTM, ils reçoivent l'argent, ils décident les grandes orientations, puis ils transfèrent ça aux plus petites sociétés de transport qui, elles, t'sais, décident t'sais, des trajets plus finement, puis gèrent l'opération.
Okay. Et maintenant, c'est au niveau du côté privé, c'est quoi les caractéristiques qui tournent autour de la gestion?
Oui, c'est quand même intéressant, parce que dans le privé, c'est pas le libre marché non plus. Là, au Québec, pour le transport en commun, c'est pas « Hey, moi, j'ai une société d'autobus, puis je mets des autobus où je veux, puis vous payez des billets si ça vous tente. » C'est vraiment pas comme ça que ça marche. Il y a une organisation qui s'appelle la Commission des transports du Québec qui détermine des corridors de service. Par exemple, tu as un corridor, c'est le Montréal-Québec-Gaspésie, là, donc qui part de Montréal, qui va jusqu'à Gaspésie avec un arrêt à Québec. C'en est un, le corridor Montréal-Sherbrooke. Puis là, il y a des compagnies privées qui appliquent pour desservir ces corridors-là, dans le fond, un peu comme des appels d'offres. Puis il faut qu'il y ait juste une compagnie par corridor, fait qu'il y en a une seule qui en obtient un, fait que ça devient comme un monopole. Donc, tu ne peux pas magasiner ta compagnie, là. Puis elle doit desservir toutes les lignes du corridor. Fait que si, mettons, tu appliques sur le corridor Montréal-Gaspésie, puis tu l'as, tu ne peux pas dire, ben moi, je suis juste Montréal-Québec, je vais peut-être jusqu'à Rimouski, puis tant pis pour la Gaspésie. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut que tu assures un niveau de service sur toute le trajet, puis il y a quand même certains barèmes là, aussi au niveau des prix. Là, tu ne pourrais pas décider de charger subitement 800 $, même si tu peux charger quand même assez cher. Et tout ça n'est pas subventionné. Il y a juste eu des aides d'urgence là, liées à la pandémie récemment, mais c'est pour ça que les billets sont chers.
Ça allait être ça ma question. Excuse-moi, je t'ai coupé. Est-ce que c'est subventionné, justement, ces organes-là qui
Non.
Non, OK.
Non, là, il y a des aides d'urgence liées à la pandémie, mais elles n'ont pas entraîné une baisse là, du coût des billets. Là. Je te dis, moi, je prends vraiment souvent ce type de ligne-là, puis ça peut coûter 50$, 80$ un aller simple, là, dépendamment d'où tu vas. C'est aussi difficile de trouver de l'information parce que c'est pas centralisé. C'est plein de petites compagnies. Il faut que tu googles les villes pour trouver c'est laquelle. Mm-hmm. Ça change souvent. Des fois, il y a des arrêts de service sur une ligne, puis c'est comme le corridor Montréal-Gatineau, pendant une couple de mois, il était juste plus desservi. C'est quand même particulier. Là, ça a repris depuis. Là, mais fait que c'est vraiment moins fiable et beaucoup plus cher que le public.
Oui. Mais ça, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment comme des tronçons de territoire qui sont offerts à des compagnies, puis après, eux, ils prennent ça puis ils gèrent ça comme un peu ils veulent.
Exact. Ils ont quand même quelques barèmes à respecter, là, mais en gros, oui, c'est ça. Puis t'sais, après, c'est pas, mettons, facile de faire du transport en commun qui soit rentable. Là. C'est pour ça que c'est normalement un système public. Fait que c'est pas, je veux pas avoir l'air de pointer ces transporteurs-là puis de dire Orléans Express sont méchants. Là. C'est juste que la structure fait en sorte qu'on est vraiment dans deux mondes quand on prend du transport en commun privé versus public.
OK, parfait. Là, on a fait comme un peu, on a débroussaillé tous ces grands systèmes-là. Là, je voudrais qu'on commence par parler des grands transports en commun, des grands projets de transport en commun au Québec. Et on commence un peu par la région montréalaise. Puis on commence par un projet qui est un peu le gros mastodonte du transport en commun qu'on n'a jamais vu depuis bien longtemps, le REM. Donc, d'abord, j'aimerais ça que tu me dises, que tu nous expliques c'est quoi concrètement le REM, à quoi telle région va desservir, à quoi il sert, qu'est-ce qu'il y a de spécial. C'est quoi cette grosse affaire-là qui est comme atterrie du jour au lendemain dans la grande région de Montréal?
Bonne question, parce que je pense que beaucoup de monde ne savent pas c'est quoi, puis pourtant, c'est vraiment un projet majeur. Dans le fond, le REM, c'est pour Réseau Express Métropolitain. C'est le plus gros projet de transport en commun au Québec depuis le métro de Montréal. Donc, on peut se dire que vraiment, ça va changer la face de la grande région métropolitaine. D'un point de vue technique, là, le REM, c'est un train électrique léger, sans conducteur, qui va passer environ 5 minutes. Ça peut être aux 2,5 ou aux 15 minutes, selon la branche et le moment de la journée. Fait que, c'est une fréquence de service qui est similaire au métro. On ne peut pas comparer le REM à un train de banlieue. C'est vraiment plus un mode de fonctionnement qui est similaire au métro.
Avant que tu continues, d'ailleurs, c'est assez drôle. C'est les gens qui n'ont jamais vu des images, vous allez voir, c'est quand même des petits trains.
Ouais.
C'est, admettons, c'est vraiment pas des gros... Tu sais, les trains de banlieue sont immenses. Les métros sont comme ça gros. Mais le REM, c'est vraiment des bébés trains.
Puis avec pas de conducteur, ça va vraiment être tout automatisé. Il va y avoir un centre de contrôle, évidemment, avec des gens qui vont faire avancer ou pas les trains, là, mais ouais, fait que ça va être, comme tu dis, c'est vraiment une infrastructure, ben, tu sais, un train qui est léger, là, on le voit, c'est dur de le dire sans le voir. Puis il va y avoir plusieurs branches, là. La première qui va être mise en service, ça va être au printemps 2023, normalement, si tout va bien. Fait que dans quelques mois, là, on peut déjà voir des trains circuler sur les rails en mode test. Cette branche-là, qui va être mise en service bientôt, elle va relier la rive sud. Il y a trois stations qui sont à Brossard, là, dont une au 10-30, pour vous donner une idée, jusqu'au centre-ville de Montréal, à la station Bonaventure. Et il va y avoir des arrêts à l'Île-des-Sœurs puis à Griffintown. Là, fait que des stations dans ces deux endroits-là qui sont assez notoirement mal desservies par le transport en commun. Et les autres branches qui sont dans les plans pour les prochaines années là, de la phase 1, fait qu'ils sont déjà financés, commencés à construire, puis c'est comme sûr qu'ils vont être mis en place, là, vont se rendre à l'aéroport, ça va faire du bien, dans l'ouest de l'île de Montréal, un autre secteur très mal desservi, puis à Deux-Montagnes.
Ouais. D'ailleurs, là, les gens qui nous écoutent, Camille m'a montré, elle m'a donné des images, je vais toutes les mettre sur Instagram. Allez voir l'image, ça, on voit bien comment c'est super clair, en fait, ça. Le beau tracé, puis il y a des belles couleurs et tout. Je vais mettre toutes les images sur Instagram si vous voulez les voir en nous écoutant.
Puis en plus, je trouve que cette image-là est intéressante parce qu'on voit aussi la carte du métro en filigrane. Puis tu sais, là, j'ai dit que ça allait aller à Bonaventure, là, mais ça va aussi s'arrêter, si je ne me trompe pas, c'est à McGill puis à Édouard Montpetit, là, sur la ligne verte et bleue. Fait que ça va être vraiment un peu comme une extension du métro, là, même sur l'île de Montréal, ça va nous permettre de passer de la ligne bleue à la ligne verte et orange en genre 2 minutes. Là. Fait que c'est vraiment un projet intéressant, puis c'est un nouveau mode de transport structurant, puis ça, on sait que c'est le genre de mode qui font réellement abandonner la voiture au profit du transport en commun. Fait que c'est majeur là, dans le secteur.
Qu'est-ce que, parce que outre le fait que c'est comme vraiment un changement énorme, là, qu'est-ce qui différencie le REM de d'autres projets qu'on voit habituellement en transport en commun, surtout dans la région de Montréal?
Oui, et bien là, je suis contente parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent, qui aiment la politique, parce que c'est quand même politique là, comme projet. Le REM, tu as dit tantôt, c'est arrivé un peu d'un coup, là, ça. Puis effectivement, c'est beaucoup à cause de la structure de gouvernance autour du REM. Je reviens, il y a quelques années, en 2017, ça n'est pas longtemps, le 2017, à l'échelle des projets de transport en commun, le gouvernement du Québec, qui était à l'époque gouvernement libéral de Philippe Couillard, a adopté une loi spéciale qui s'appelle la loi concernant le réseau électrique métropolitain. Cette loi-là, en gros, là, a confié le développement du REM à la Caisse de dépôt et placement de Québec par sa filiale CDPQ Infra. Okay.
Oui, d'ailleurs, avant que tu continues, je travaille en ce moment sur faire un épisode spécial sur la Caisse de dépôt et placement du Québec et la Caisse de dépôt et placement Infra, parce que c'est une grosse bébelle, puis moi, j'ai un dada pour ça, puis en gros, ça arrive, si vous vous demandez c'est quoi, on va vous présenter un épisode là-dessus, ça va être super intéressant, mais tu peux continuer, parce que justement, c'est à elle qu'on a confié le rôle de ce développement.
Bien, puis j'ai hâte d'écouter cet épisode-là, parce que je trouve ça très intéressant, tout ce qui touche à la CDPQ. Puis, bref, ça a été donc confié là, spécifiquement à cette organisation-là de développer le réseau express métropolitain. Puis la loi lui a donné ces outils spéciaux-là. Mmh. La première, c'est que ça a facilité l'obtention de permis puis les expropriations, parce qu'on sait que c'est vraiment des bloqueurs majeurs quand on réalise des travaux de transport en commun, surtout quand ils passent à travers plusieurs villes. Mmh. Ça a aussi, entre autres, réduit le délai qu'ont les villes traversées pour réagir aux changements amenés à leur trame urbaine par le REM. Puis si le REM est... Bien, le REM, je dis le REM, mais vous comprenez que c'est la caisse, là. Mm-hmm. Si le REM et la ville n'arrivaient pas à s'entendre, bien, le REM avait priorité sur les villes. Ça, c'est quand même nouveau, puis on ne voit pas ça souvent là, dans les projets collectifs au Québec. C'est comme un bulldozer qui passe par-dessus les processus habituels.
Ouais.
Puis une autre grosse différence, là, la dernière que je vais dire, c'est les développements immobiliers qui vont se faire et qui se font là, dans une certaine superficie autour des stations. 1 km, là, sauf dans les quartiers centraux, c'est 500 mètres. Tous ces développeurs-là vont devoir payer des redevances au REM, ce qui vise à diversifier les revenus du transport collectif. Donc, ça, ce n'est pas des choses qu'on voit là, habituellement dans les projets de transport collectif au Québec, tout ce que je viens de dire là.
Ça, c'est, tu as dit des choses fous parce que justement, là, tu disais d'avoir confié autant de pouvoir à la Caisse de dépôt et placement qui est publique, mais ça, qui se comporte beaucoup comme une compagnie de complément privée qui veut faire des profits. Là. Et en fait, c'est que ça lui donne des pouvoirs énormes parce que justement, souvent, ce qui est difficile dans le développement de projets de transport en commun, c'est justement des négociations pour des expropriations, des trucs, c'est hyper compliqué. Puis là, donc, ça prouve comment lui a donné énormément de pouvoir. Puis la petite twist, justement, tu parlais de comme genre autour de chaque station, vous allez donner de l'argent à cette. C'est énorme. Parce que si je ne me trompe pas, la SM, c'est pas pendant tout ça. Là.
Non, ça, ben, à ma connaissance, là, ça ne fait pas partie de ses revenus.
Donc, c'est vraiment énorme. Et est-ce que justement ce modèle-là, qui est comme tu l'as un peu dit, qui a un peu créé un immense bulldozer, puis si je pense que peut-être tu auras des exemples un peu plus tard, mais est-ce que ça justement ça a amené des. Est-ce qu'il y a des problèmes reliés à ce modèle-là, REM, d'être exploité d'avoir été confié dans un peu, en quelque sorte, une compagnie privée, là, je mets des immenses guillemets autour. Est-ce qu'il y en a ce
bonne
modèle-là?
Question. Puis là, j'aurais le goût de dire que peu importe la personne à qui tu vas demander ça, la réponse pourrait être très différente. Fait que prenez avec un grain de sel celle que je vais vous donner, mais qui provient de mes observations puis de mon intérêt pour ce dossier-là. J'aurais le goût de dire qu'il y a évidemment des bons et des mauvais côtés, puis j'ai le goût de commencer par les bons, parce qu'on parle beaucoup du mauvais dans les médias entourant le REM. Mais je vais venir au mauvais aussi. Les bons, c'est que je trouve qu'on a dit la loi spéciale a été adoptée en 2017. Là, 6 ans plus tard, la première branche devrait ouvrir dans quelques mois. Là, puis ça, c'est en comptant les retards de la pandémie. Les structures sont bien avancées dans l'ouest de l'île. On a construit des rails surélevés. Les trains sont en test sur les voies. Personnellement, je n'ai jamais vu un projet de transport en commun débloqué aussi vite au Québec. Ça nous a pris des dizaines d'années avant d'avoir un autobus en voie réservée sur le boulevard Pinneuf. La ligne
c'est fou,
2,
là.
On en parlera plus tard, mais comme...
C'est fou. Mais c'est l'exemple avec le boulevard Pinneuf, la SRB, c'est malade parce que la SRB, là, quand tu y penses, c'est comme... Ça n'a même pas rapport à quel point ça a l'air mineur par rapport à ce qui s'est passé avec le avec le REM, là, comment ça comme...
Et oui.
C'est mongol.
C'est ça, puis après, on peut chercher plein de raisons qui peuvent expliquer tout ça, mais les pouvoirs que confère cette loi-là font manifestement en sorte que le projet avance. Puis moi, c'est là qu'on en vient peut-être un peu à une posture plus personnelle. Moi, je pense qu'on a besoin d'avancer vite en transport en commun parce que c'est une bonne partie de notre avenir qui en dépend. Je pense évidemment à la crise climatique, là, je ne l'ai pas dit, mais c'est une des grosses raisons pour lesquelles moi, le transport en commun, ça m'intéresse beaucoup aussi. Tu sais, au Québec, je pense à peu près la moitié de nos émissions vient de GES, viennent du secteur des transports. On a un taux de motorisation qui n'arrête pas d'augmenter. La grosseur des véhicules n'arrête pas d'augmenter. Il faut vraiment qu'on switch, puis qu'on switch plus vite que ça. Puis tu sais, la dernière station de métro sur l'île de Montréal, elle a ouvert en 1988, avant que toi puis moi, on naisse. Puis pour moi, une paralysie comme ça, c'est pire qu'un projet imparfait qui est réalisé trop vite. Puis là, après, je me calme, mais il ne faut pas oublier que pour chaque projet de transport en commun qu'on ne réalise pas parce qu'on attend, parce qu'on veut éviter qu'il soit imparfait, bien, pendant ce temps-là, on élargit des autoroutes, on empiète sur des territoires agricoles, on augmente le parc automobile. Ce n'est pas juste « Ah, ben il n'y a pas d'impact pour le moment. » Non, il y a des gros impacts, mais ils sont juste, on ne les associe pas nécessairement à ce qu'on ne fait pas, mais pourtant, ils y sont. Fait que voilà, ça, c'était ma tirade, disons.
Oui, puis...
Qui visait à défendre le REM.
Oui, puis c'est une réalité aussi, c'est que le métro à Montréal est loin d'être impressionnant, moindrement si tu le compares à n'importe quelle grande ville dans le monde. C'en est presque gênant à quel point Montréal, qui se positionne comme étant une grande ville, a un système de transport assez misérable.
Oui, puis la plupart des métros dans les grandes villes, ils continuent à construire des stations. T'sais, ils font une station... C'est une nouvelle station par année ou aux 2 ans, ça permet de garder une certaine expertise, qu'on considère un réseau comme quelque chose qui est toujours en expansion, tandis que nous, c'est comme, ah, c'était un beau projet, tu sais, de nos belles années 70-80, puis après, on a arrêté d'y penser, puis c'est dommage. J'exagère, là, évidemment, je fais des grands traits, là. Puis, si tu veux, je peux quand même passer sur les côtés que j'estime mauvais du REM, là, puis c'est pas vraiment une opinion personnelle,
mais c'est ça.
C'est ce qu'on observe.
Ben c'est, on en a déjà parlé parce qu'on est amis dans la vie, mais c'est vrai qu'un aspect très positif, c'est que ça a été immensément efficace, puis ça a été extrêmement rapide, puis comme c'est fou, là, on dirait que du jour au lendemain, tous, des fois, ça arrive ça, puis t'es comme, wow, what a boy, OK, il y a vraiment ça s'est construit d'un coup, tu sais, ça a comme apparu en claquement de doigts, c'est vraiment impressionnant. Mais il doit quand même avoir des mauvais côtés à justement cette forme de rapidité-là, un peu, puis c'est un peu ce modèle bulldozer de comme ça va trop vite. Là.
Oui, vraiment. Que ça passe comme un bulldozer là, sur les projets de consultation habituels, mais c'est vrai que c'est choquant, notamment pour les gens qui se retrouvent à avoir à vivre avec un gros train à deux pas de chez eux. Ils n'avaient pas demandé ça, ils ne savaient pas que ça s'en venait. Mm-hmm. Même chose aussi pour les villes qui se voient imposer quelque chose sur leur territoire. T'sais, ça change une trame urbaine pas mal, là. Un train à grande vitesse qui passe dans ta ville. Pour le meilleur et pour le pire. Mais c'est sûr que j'avais été, moi, à une certaine époque, là, quand je me rappelle, j'avais été assistée comme journaliste à des consultations publiques parce qu'ils en faisaient quand même un peu là, du REM. Puis on sentait que c'était comme, non, on va faire la consultation, mais on va quand même au final faire ce qu'on veut comme projet. Puis là, on le voit dans le texte de la loi spéciale, c'est le REM qui a priorité. Fait que ça, c'est sûr que pour une ville, c'est pas super, surtout que c'est pas avec ça qu'on est habitué de composer. Mm-hmm. Puis le fait, le modèle aussi financier fait en sorte que les développeurs du REM tiennent compte des revenus potentiels, des redevances foncières qu'ils vont faire avec les futures stations lors du développement. Ça peut être positif dans le sens où que la Caisse de dépôt et placement du Québec prenne de l'argent aux développeurs immobiliers. On peut voir ça comme quelque chose d'assez bien pour le bien-être collectif. Mais c'est vrai que ça fait aussi en sorte que sa mission n'est pas 100% orientée sur le déplacement des gens. Puis ça, je sais qu'il y a des gens qui s'agacent et qui pensent que peut-être que si ça avait été développé vraiment que dans une optique de purement prendre en compte le déplacement, ça aurait été mieux. Peut-être, ça, je ne suis pas une experte, là, évidemment, je ne peux pas me prononcer là-dessus.
Ça serait une grosse parenthèse.
Ben oui. Oui, exactement. Puis, tu sais, ça serait une parenthèse si on se mettait à impliquer tous les gens qui ont une opinion sur les tracés. J'ai rarement vu deux experts proposer le même tracé. Je ne sais pas ce que ça donnerait en termes d'aller vite comme projet. Mais bon, c'est comme je dis, je ne suis pas expert du tout là-dedans. Mais il y a un truc qui je pense que tout le monde s'entend pour dire qui est vraiment déplorable, là, qui est survenu avec le REM. Quand le REM il a été décidé qu'il remplacerait la ligne de train de banlieue qui dessert Deux-Montagnes, parce que j'ai dit tantôt qu'il y aurait une ligne qui se rendrait jusqu'à Deux-Montagnes, mais ça, c'était une ligne qui était desservie par un train de banlieue. Vu qu'il fallait remplacer les rails, ils ont décidé que le service serait interrompu sur la ligne pendant 2 ans. Et maintenant, ça fait 5 ans. C'est vraiment... ça ne fait pas 5 ans, mais ça va faire 5 ans au moment de la mise en service. Puis ça, je pense que tout le monde s'entend pour dire que c'est inadmissible pour des gens qui décident d'habiter à côté d'une ligne de chemin de fer qui est en service depuis plus de 100 ans de couper le service. C'est pour ces gens-là, c'est une grosse perte, là, franchement.
Oui, parce que ces gens-là, en fait, ils ont juste une coupure totale de service. Comme, admettons, si tu allais au travail tous les jours en utilisant le train de banlieue, bien là, tu as juste... Ça a juste parti, là. Tu sais, c'est comme...
Il y a des navettes d'autobus, mais c'est pas pareil. C'est ça qu'on veut dire structurant. Des autobus, c'est pas structurant. Mm-hmm. Un train, oui.
Là, on parlait de problèmes de mauvais côté. Ça m'amène à parler spécifiquement d'un tracé du REM, qui est le REM de l'Est.
Oui.
Qui est un gros sujet, justement, le REM de l'Est. Peux-tu nous expliquer c'était quoi le problème lié au REM de l'Est et, plus particulièrement, et là, tu vas l'expliquer, la structure aérienne, parce que le REM est en partie aérien. Mm-hmm. Donc, explique-nous ça.
Oui. Tout ce que j'ai parlé tantôt par rapport au REM, c'est la phase 1, là, c'est elle qui est coulée dans le béton, qui est entamée, mais il va y avoir d'autres phases après ça, normalement, parce que on veut développer le transport en commun un peu partout. La phase 2 qui avait été proposée par CDPQ Infra après que le gouvernement lui avait demandé de développer dans ce coin-là, c'était celle du REM de l'Est. Le REM de l'Est, selon la proposition de la CDPQ, aurait eu 23 stations qui se seraient étalées là, dans l'est de Montréal en deux branches, une qui allait se rendre jusqu'à Pointe-aux-Trembles, un secteur très mal desservi par le transport en commun, et une qui monterait vers Montréal-Nord en passant par comme le cœur de Rosemont, puis Saint-Léonard, d'autres zones mal desservies. Ouais. Bon,
la carte est très cool d'ailleurs. Là, en ce moment, là, si vous avez la chance de pouvoir aller sur Instagram, allez voir notre carte parce que les tracés sont cool. Moi, j'avoue que les tracés sont très cool. En première vue, je suis comme « wow, le tracé est très cool mm-hmm. ». Mais il y a un problème.
Mais il y a un problème. il y a une partie, comme tu vois, il y a aussi une branche au centre-ville. Hein. Tu sais, j'ai parlé des deux branches dans l'Est, mais c'est comme ça traverserait aussi pas mal tout le centre-ville le long de Notre-Dame. Puis cette partie-là aurait été, c'est-tu Notre-Dame? Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais en tout cas, le centre-ville, il y a une bonne partie qui aurait été aérienne, probablement sur un espèce de gros viaduc surélevé au centre-ville de Montréal, puis aussi le long de la rue Sherbrooke, dans une bonne partie de l'Est de Montréal, là où on trouve plusieurs résidents. C'est ça veut dire une grosse structure en béton avec un train dessus dans le centre-ville puis dans des quartiers résidentiels. Et ça, ça n'a pas du tout passé le test de l'acceptabilité sociale. Il y a eu plusieurs pépins là, avec le REM de l'Est qui n'ont pas passé le test de l'acceptabilité sociale, mais celui-là, je pense que c'était le plus gros. Et le gouvernement Legault a comme compromis en disant « OK, d'abord, on annule la partie centre-ville du trajet, ça va être juste le reste. » Puis à ce moment-là, la CDPQ a décidé de se retirer du projet parce que, de ce que j'en comprends, ils ne voyaient plus vraiment l'intérêt pour la CDPQ de réaliser ça sans le tronçon centre-ville.
Mais ça, il y avait plusieurs... Si tu me permets de rebondir, je comprends vraiment plusieurs traumatismes. D'un, c'est vrai, ça fait peur d'avoir une immense structure justement au milieu qui passe en devant chez vous. Je peux vraiment comprendre les gens qui... Puis d'ailleurs, ça m'est arrivé à l'occasion d'aller à Tétroville pour ma job. Et en fait, tu voyais qu'il y avait des gens qui mettaient carrément devant chez eux comme une pancarte non au REM aérien. Tu voyais, le monde était quand même bien mobilisé contre ça. C'est intéressant. Puis aussi, c'est qu'à Montréal aussi, on a une fracture... architecturale et urbaine assez importante, qui est comme la métropolitaine qui passe dans le milieu de la ville. Et en fait, moi, pour avoir grandi proche de la métropolitaine, c'est fou comment ça coupe la ville en deux, puis c'est particulièrement laid en termes de ville. Là. Donc, je peux comprendre que ça fait réagir fort les gens, puis tu sais, je me permets de te dire, mais c'est, tu voyais, moi, les images que, parlant de CDPQ Infra, mettait au début, c'était pas convaincant.
Oui, effectivement. Tu sais, puis c'est sûr qu'ils ont toujours dit, mais c'est pas des images finales, c'est des plans, mais comme ça a vraiment marqué les gens au point où vraiment, comme c'est l'acceptabilité sociale qui a fait, la non-acceptabilité sociale qui a fait que le projet a tombé à l'eau. Là. En ce moment, il a été comme annulé. Mais comme ces secteurs-là sont en manque criant de transports en commun, le projet de développer un nouveau tracé de REM de l'Est là, a été confié à un comité qui regroupe le ministère des Transports, la Ville de Montréal, la RTM et la STM.
Là, la donc, bonne vieille gestion. Ça va prendre du temps à le faire. Ça, là, on en a pour 20 ans.
Ben, tu sais, c'est sûr, comme disons que j'essaie d'être optimiste parce que je pense qu'il y a beaucoup de volonté de toutes ces personnes-là que ça fonctionne. J'ai eu des infos comme quoi un plan serait présenté cet été, mais moins ambitieux, là, dans le sens où ça n'irait pas jusqu'à desservir dans le centre-ville. Ça serait plus comme une extension du métro. T'sais, je ne veux pas être négatif. Là, peut-être que ce que le REM de l'Ouest, le REM numéro 1, là, est en train de donner va être encourageant. Mais disons que moi, quand j'ai appris que ça passait de CDPQ à un comité, je me suis dit, oh mon Dieu, j'espère qu'on ne revient pas dans les anciens modèles.
Oui. Puis, parlant d'anciens modèles qui prennent beaucoup de temps, ben, parlons de la ligne bleue.
Oui.
Enfin, le projet de la ligne bleue se concrétise. On le voit. On voit qu'il y a des travaux qui se font, des terrains qui sont faits. On sait où vont être les stations. Enfin. Premièrement, parce que c'est ça. Remontons. Depuis quand le fameux prolongement de la ligne bleue est prévu? Parce que moi, en fait, j'ai grandi dans Saint-Michel. Donc, je connais très bien ce secteur-là, puis depuis toujours, en fait, je me rappelle d'être au tout début de mon secondaire, puis me dire, sûrement d'ici la fin de mon secondaire, je vais pouvoir... Le terminus, ça ne sera pas Saint-Michel. Et ça, c'est toujours pas, mais depuis quand, en fait, ce prolongement-là était prévu?
Oui, c'est quand même cute comme anecdote, parce que, c'est encore Saint-Michel, puis j'imagine que tu as fini ton secondaire depuis quelques années. Le prolongement, dans le fond, là, il fait partie de plans de transport d'hiver, là, depuis 1979. 79. C'était pas comme supposé ouvrir en 79, là, mais ça fait partie des plans d'extension depuis cette année-là. Je te dirais qu'en gros, là, je ne ferai pas l'historique complet de tout ce qui s'est passé, là, mais il y a eu une longue valse de plans, puis de contre-plans. Puis, tu sais, quand je dis de plans, puis de contre-plans, c'est plus comme, mettons, on ne fera pas le prolongement de la ligne bleue. À la place, on va aller faire un tramway à tel endroit, ou bien on va aller faire ci, puis ça. Tu sais, bon, des plans et des contre-plans, des dépassements de coûts, une récession qui ont fait que ça a toujours été repoussé, repoussé, repoussé. Puis, tu sais, pourquoi ça a pris autant de temps? C'est un peu la même question que tous les gros projets de transport en commun. Quand on touche à ce type de dossier-là, c'est dur de trouver un plan qui fait consensus parce que tout le monde aimerait ça être desservi. Puis là, les endroits se battent pour avoir leur desserte. Il y a plein de façons de faire un beau plan. J'imagine qu'à un moment donné, il faut juste en choisir un puis y aller avec ça. C'est super cher aussi. C'est sur le long terme. Les gouvernements se succèdent avant qu'on ait eu le temps de finir un projet. C'est multipalier, municipal, provincial. Puis dans le cas de la ligne bleue spécifiquement, bien, les habitants de ce coin-là à Montréal, là, ça va desservir, comme on le disait, là, principalement Saint-Léonard, Anjou. C'est pas des coins très riches. Donc, c'est pas des coins qui ont des grosses voies, là, disons, en général, sur la place publique, puis qu'on dessert en premier. Mais quoi qu'il en soit, la STM est en appel d'offres pour savoir quelle compagnie va creuser le prolongement. Il y a déjà des travaux qui sont commencés, mis en service prévu en 2029. Moi, j'aime y croire parce que je suis optimiste. Donc, 2029.
Ben là, ils ont l'air sérieux. Là. Ils ont même déplacé plein d'affaires. Mais oui, c'est bon que ce que tu dis parce que c'est... Moi, je pense une hypothèse aussi pourquoi ça a pris si longtemps, c'est que, en fait, ce prolongement de la ligne bleue, ça fait vraiment desservir une population très résidentielle. Très, tu sais, c'était pas un lien qui allait au centre-ville. Oui, bon, il y a les galeries d'Anjou à la fin là, qui vont être desservies, mais tu sais, c'était pas poussé par exemple, le patronat ou comme des grosses associations commerciales du centre-ville que tu sais qu'ils peuvent avoir un gros poids. C'était comme très résidentiel. Moi, je pense que c'est une hypothèse pourquoi ça a pris autant de temps. C'est des circonscriptions assez petites. Et pourtant, c'était essentiel parce que justement, pourquoi c'est important, c'est si important que ça, le prolongement de la ligne bleue?
Oui, ben parce que l'Est de Montréal est vraiment mal desservi en transport en commun, malgré le fait qu'il est densément peuplé. C'est pas pour rien là, qu'on pense à ça depuis 1979, là, de mettre du transport structurant dans ce coin-là. Puis tu sais, honnêtement, c'est insultant pour cette population-là qui paye des taxes, là, d'être aussi mal desservie. Si tu veux aller à Anjou là, en ce moment, puis que tu pars du coin de Saint-Michel, il faut que tu t'entasses dans des lignes d'autobus sur Beaubien ou sur Jean Talon qui vont lentement parce qu'elles arrêtent constamment, qui ne roulent pas en voie réservée. Puis on vient d'en plus de diminuer leur fréquence. Là, c'était des autobus aux 10 minutes max, mais là, ce projet-là vient d'être coupé. T'sais, quand tu as un service comme ça, tu achètes un auto dès que tu peux, là, c'est sûr.
C'est vraiment...
pour ces raisons-là.
Ouais. Desservir, en fait, c'est pour répondre à des. Un besoin réel de population. En fait, c'est là que ça n'a aucun bon sens que ça a pris autant de temps. Mais bref. Et d'ailleurs, un autre projet, là, on parle de la ligne bleue qui va être en saint fond, on parle du REM. Un projet qui était comme apparu, qui était complètement fou, c'était la ligne rose. C'est un projet que Valérie Plante avait proposé en pleine élection. Est-ce que tu peux nous dire c'est un peu c'était quoi? Est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que c'était faisable? Parle-nous-en un peu de ce fameux projet-là. D'ailleurs, on a une belle photo qui va être qui est aussi sur Instagram. Cet épisode-là, il faudrait idéalement que vous soyez toujours devant votre selle pour voir les photos. C'est tellement utile.
ça aide à bien le comprendre. Ouais. J'ai trouvé ça le fun quand tu m'as dit que tu voulais qu'on parle de la ligne rose parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas pensé à la ligne rose. C'était effectivement une proposition là, en 2017 de Valérie Plante d'une ligne de métro supplémentaire. Là, fait carrément une nouvelle ligne de métro qui irait de la Chine. Si vous ne savez pas, là, la Chine, c'est comme dans le début de l'ouest de Montréal. Jusqu'à Montréal-Nord, là, donc vraiment au nord-est, en passant par le centre-ville de Montréal. Fait que, il y avait comme deux objectifs un peu, là, de desservir ces deux quartiers-là très mal desservis, la Chine et Montréal-Nord, puis aussi d'alléger les lignes au centre-ville. Là, c'était une grosse préoccupation là, avant la pandémie, surtout d'alléger les lignes au centre-ville. Puis tu me demandais, est-ce que c'est une bonne idée? Bien, il y a plein d'idées qui peuvent être bonnes en transport commun. Celle-là, elle avait ces bons points-là que je viens de nommer, là, d'alléger. Mais est-ce que ça va être quelque chose qui va être réalisé? Non. c'est même plus dans les plans là, nulle part.
Ouais.
Puis la raison est assez simple. C'est parce qu'aux élections de 2021, la mairesse, Valérie Plante encore, a décidé de laisser tomber le projet parce que la nouvelle mouture du projet de REM de l'Est, là, comme on a parlé tantôt, donc qui est en élaboration, entre autres, par la Ville de Montréal, faut répondre en bonne partie à ce que la ligne rose tentait de faire, c'est-à-dire desservir Rosemont-Saint-Léonard, Montréal-Nord. Désolée, la Chine, par contre, là, c'est plus vraiment dans les plans. Puis, à noter quand même que la CAQ a toujours été opposée à la majorité du projet de ligne rose et refusée de le financer. Fait qu'on peut se douter que ça joue un rôle là, dans le compromis de la mairesse Plante de laisser tomber, disons, le projet complet.
Ben moi, je pense que ce qui a tué aussi le projet en l'œuvre, c'est qu'il n'y a eu aucune ouverture d'aucun autre palier gouvernement. T'sais, ça a été comme hors de question dès le départ, Marie, que si vous voyez la photo, moi, je regarde le trajet, je trouve ça vraiment nice. Je serais comme, oh my God, ça aurait été vraiment fou. Puis d'ailleurs, ça aurait vraiment répondu les gens de. Moi, je prêche pour ma paroisse là, qui ont grandi, Saint-Michel-Rosemont, là. C'est un beau petit coin, un petit village qui est comme un peu pas du tout desservi, qui a été vraiment génial, mais c'est un autre projet qui est malheureusement mort, mais qui va être peut-être remplacé par d'autres. D'ailleurs, là, avant de se faire accuser d'être trop montréalo-centriste, et après, on va parler de transport interrégional, que je sais qu'il est un de tes grands dada. J'aimerais ça rapidement, le tramway de Québec, je ne te demande pas nécessairement une opinion, mais c'est là qui semble se faire, mais rapidement, là, ça va être quoi le tramway de Québec?
Oui. Là, je dois avouer un peu mon montréalocentrisme là-dessus. Je ne le connais pas beaucoup, fait que je vais vraiment m'en tenir aux grandes lignes. En gros, il n'y a pas de transport en commun structurant à Québec. Et puis, depuis plusieurs années, il y a quand même une espèce de je ne veux pas dire un drama, là, parce que c'est pas fin, là, mais c'est autour du fameux tramway de Québec. Fait que là, on se demande, mon Dieu, c'est quoi ça? À quel point ça va révolutionner la ville? Mais quand on regarde une carte, là, c'est un tramway avec une ligne qui relie comme deux quartiers quand même assez loin là, dans la ville. T'sais, vous irez voir peut-être une carte, puis vraiment pas me prendre moi comme source principale là, sur le tramway de Québec, mais c'est pas un projet qui est comme particulièrement ambitieux là, pour une grande ville. Là. En Europe, il y a ça dans n'importe quelle bourgade, là, j'exagère à peine, là. Un tramway qui dessert les deux points les plus opposés de la ville, là, qui passe en espèce de grosse ligne. Là. Ça va passer par Limoilou, notamment à peu près au milieu. C'est comme, disons, on dirait le minimum pour commencer à avoir un peu de transport structurant dans la ville de Québec. Puis ça, ben, tu sais, ça a comme un peu tout pris pour que ce projet-là soit autorisé. Là. Ça va pas, à mon avis, là, mettons, changer drastiquement la face du transport en commun à Québec d'un seul coup. Si tu n'habites pas sur le tracé du tramway, c'est sûr qu'il y a des bus qui vont t'y amener, j'imagine, mais c'est pas pour l'ampleur de la contestation qu'il y a, moi j'ai été surprise à quel point c'est pas si gros. Mais tu sais, après, tout projet structurant est bon. Là, fait que c'est bien que ça aille de l'avant, mais c'est quand même pas tout sera pas réglé avec le tramway. Là.
Non, c'est ça. Je pense que qu'est-ce qui est très intéressant par rapport au tramway d'un point de vue analyse politique un peu, c'est à quel point l'opposition a été forte par rapport à ce projet-là. Moi, j'avoue, j'ai été assez surpris. Tu sais, même Régis, ça a commencé sous l'ère Régis Labeaume qui défendait le projet. Puis là, Ah, mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire.
Bruno Marchand.
Bruno Marchand, que j'adore en plus. Mais Bruno Marchand qui doit le défendre comme bec et ongle, puis ça a tout un grand débat à Québec. C'est assez impressionnant. Je pense que moi, ce qui est le plus impressionnant, c'est à quel point il y a eu une opposition majeure contre ce projet-là pour la ville de Québec. Mais allons pas trop là-dedans, parce que justement, j'ai peur qu'on se fasse.
On aura l'air vraiment. On ne connaît pas notre dossier quand
même. Oui, puis on a vraiment l'air de gens de Montréal qui parlent de Québec, puis ça, c'est les gens de Québec qui n'aiment pas ça. Ouais, ils n'aiment vraiment pas ça en ce moment. Donc, on va parler de, par exemple, d'un de tes dadas, puis je sais que tu connais très bien le sujet, puis ça va être super intéressant. On va parler de transport interrégional.
Oui.
Et là, on va commencer ça par une question simple. Selon toi, au Québec, est-ce que c'est facile de se déplacer entre les différentes villes ou régions en transport en commun?
Non. Non, c'est pas facile. Puis ça explique aussi pourquoi on parle souvent de Montréal quand on parle de transport en commun, mais parce que c'est pas mal juste là qu'on a un réseau de bien développé. Mais quand même, reste que quand on regarde une carte, là, on en a une, des principaux parcours interurbains en autocar au Québec. Tiens, on regarde ça, c'est quand même cool. Là. Il y a des lignes à peu près partout sur le territoire, disons, habité, là, au sud de Havre-Saint-Pierre. Ça a l'air cool, mais quand tu regardes de plus près, il faut faire attention parce que ça peut être trompeur. Il y a plusieurs villes, là, quand on regarde la carte, là, qui ne sont pas reliées entre elles. Ça, c'est un des problèmes. Fait que tu as des villes là, qui, par exemple, là, je prends un petit carré, là, Victoriaville, Thetford Mines, Saint-Georges, Lac-Mégantic. C'est toutes des villes qui sont assez proches géographiquement. Puis, tu sais, dont les gens, il y en a que, tu sais, c'est des familles qui sont dispersées entre ces villes-là, qui veulent aller se visiter. Mais elles sont desservies par quatre compagnies différentes. Puis, pour passer d'une de ces villes-là à une autre, il faut comme que tu ailles transiter à Québec ou à Sherbrooke. Ce qui est absurde. Ça ne peut pas nécessairement se faire dans une journée, puisque souvent les départs sont peu fréquents, puis d'avoir juste un par jour sur la ligne. Il faut que tu ailles comme dormir à Québec pour passer d'une ville à l'autre.
Moins pratique.
Ça, c'est un problème majeur. c'est aussi très cher, comme on en a parlé tantôt, là, des trajets de bus de 2-3 heures entre deux grosses villes, genre Montréal-Sherbrooke, Montréal-Québec, là, ça coûte facilement entre 45 et 65 $ un aller simple, puis c'est pas le luxe non plus. Quand les distances sont grandes, c'est encore pire. Un aller-retour Montréal-Sept-Îles, pour donner une idée, c'est 450 $ Les passes mensuelles sont inaccessibles. La passe mensuelle Sherbrooke-Montréal, elle est 791 $ C'est, on dirait une joke. Au final, dans le fond, il y a plein de trajets qui ne se font pas et c'est toujours plus cher que l'auto. Fait que, je ne peux pas dire que c'est un bon système de transport en commun. Les différents transporteurs ne sont pas coordonnés entre eux. C'est gênant. C'est comme ça que je décrirais ça.
Oui, puis souvent, tu dis, le prix est complètement dispendieux. Les horaires sont souvent vraiment pas fonctionnels. Carrément, c'est pas fonctionnel. Tu sais, je veux dire, si tu dois aller d'un point A au point B, puis entre les deux, il faut que tu dormes dans une autre ville, c'est pas ça,
ben oui,
être fonctionnel. Quand tu sais, on s'entend, on est au Québec, là, on n'est pas non plus si isolé que ça. Puis tu sais, on regarde si les gens peuvent voir la carte, on voit, c'est pas... On parle quand même du sud du Québec, là, où il y a de la population qui habite. Là, on ne parle pas des grands... De toute façon, on ne se rend pas dans le nord du Québec. On parle du sud du Québec. Mais peux-tu nous donner des exemples? Parce que les gens aiment ça, avoir des exemples concrets de dysfonctionnement du transport en commun. OK.
Ben ça. Oui. Il y en a comme plein, là, mais j'en ai sélectionné deux que je trouve quand même spéciaux. Il y en a un qui vient d'un reportage que j'ai fait récemment en faisant l'expérience d'aller de Montréal jusqu'à Baie-Saint-Paul, ce qui est un trajet de 4 heures de route très simple à faire.
Qui n'est pas complètement fou comme trajet. Là.
Ben
qui
non.
Est très... Voilà.
En gros, tu fais Montréal-Québec, puis tu dépasses une heure sur le long du fleuve, puis tu es à Baie-Saint-Paul. T'sais, c'est comme... c'est pas un trajet étrange. Là.
Non.
Mais si tu veux faire ça en autobus, il faut que tu passes la nuit à Québec. Parce que le seul bus qui se rend à Baie-Saint-Paul part à 9 heures de Québec le matin, mais aucun bus ne fait Montréal-Québec assez tôt pour que tu puisses le prendre le jour même. Ça, pour moi, c'est une absurdité. Montréal-Baie-Saint-Paul, c'est un trajet quand même fréquent, mais dès que tu te mets à comme, googler pour t'acheter des billets, t'es comme « Ah, faut que je dorme à Québec, je comprends pas. » Mais non, c'est pas un bug, c'est vraiment juste comme ça. Les deux compagnies qui opèrent ces lignes-là... on peut juger bon là, de coordonner leur départ pour que ça puisse se faire en une
façon,
journée.
Ouais. Mais c'est ce qui est un peu fou, parce qu'on s'entend, c'est comme par exemple Baie-Saint-Paul, ça devrait être vraiment logique qu'il y ait comme un aller 5 qui soit organisé, mais ça prouve comment c'est complètement dysfonctionnel. Le premier départ part trop. Je veux dire, c'est même pas organisé pour que ça fonctionne bien.
Oui, puis tu sais, à la base, ce qui est le plus étrange là-dedans, c'est que ce ne soit pas possible d'arriver à 9 h à Québec le matin en provenance de Montréal en autobus.
Ouais.
9 h, là, on ne parle pas d'une heure extrêmement matinale.
C'est vrai.
Puis un autre exemple que j'ai qui est lui encore plus absurde, c'est que si tu veux aller de Grimbay à Sherbrooke en bus, c'est deux villes à une heure de distance, c'est une assez grande ville quand même, mais pas de problème. Deux fois par jour, tu peux prendre un Grimbay-Sherbrooke, mais il n'y a aucun qui le fait dans l'autre sens. Fait que tu ne pourras jamais faire Sherbrooke-Grimbay. Tu sais, c'est des petites affaires comme ça qui montrent juste comme que le système est une béquille là, qui peut être utile à certains moments. Il y a des lignes qui sont assez bien desservies, mais en gros, non, là, on ne peut pas parler d'un bon service de transport interurbain.
Ouais, c'est assez incroyable de voir ça. Puis c'est l'exemple de comme tu peux aller, mais tu ne peux pas faire l'aller-retour, c'est un peu... incompréhensible.
Le gouvernement parle de décarboner l'économie, mais tu peux littéralement à peu près pas prendre le transport en commun entre les villes efficacement, puis c'est surtout c'est zéro subventionné. Fait que comme c'est pas vraiment les bottines ne suivent pas les babines.
Mais pourquoi ça va si mal? Là, tu en parles un peu, oui, c'est mal subventionné, mais c'est quoi? C'est un manque d'organisation? C'est parce qu'il n'y a pas de demande? C'est pourquoi c'est aussi poche?
La tendance globale, là, c'est que l'offre de transport interurbain se dégrade. Si on regarde comment c'était il y a quelques décennies, il y en avait vraiment beaucoup plus des autobus et des trains aussi. On pourra peut-être y revenir plus tard.
Ouais.
Mais là, plus ça va, pire c'est. On pouvait avant là, arriver à Québec avant 9 h le matin à partir de Montréal. C'est quand même récent qu'on ne peut plus le faire. Il y a plein de lignes là, qui reliaient des plus petites villes qui ont fermé. Puis en gros, la raison pour laquelle l'offre se dégrade, ben, c'est parce que les gens ont plus d'auto qu'avant. Ce qui a été longtemps considéré dans le fond comme une bonne nouvelle, un beau progrès, c'est cool, on ne dépend plus des autobus, on ne dépend plus du service collectif, on est une société de plus en plus riche, on peut avoir nos autos, c'est le fun, mais on sait que c'est insoutenable d'un point de vue climatique Et donc là, quand on se met à y réfléchir et à dire « Ah non, mais je ne suis pas trop confortable avec l'idée de faire de l'auto-solo, je vais me tourner vers le transport en commun », on se rend compte qu'il n'existe plus tellement le transport en commun efficace entre les villes, vu justement cette motorisation-là. Fait que c'est un peu l'œuf ou la poule. Mais c'est ça, c'est comme très difficile maintenant pour quelqu'un qui n'habite pas à Montréal ou dans le Grand Montréal de juste dire « Ah ben, je vais me passer de ça, moi, une voiture. »
Ouais.
Ça prendrait ça des fonds publics pour revenir avec un beau service.
Mais ça, c'est intéressant que tu le dis. Là, c'est un service qui a décliné considérablement avec le temps. T'sais. Je veux dire, ça comme, c'est pas que, il n'y a jamais eu. En fait, c'est un système qu'on a laissé abandonner, puis les gens ont juste pris la voiture. Puis aujourd'hui, c'est rationnel de prendre la voiture d'un point de vue utilitaire parce que c'est plus efficace et ça coûte moins cher. C'est ça qui est un peu fou, là, le transport commun. Est devenu vraiment plus dispendieux que...
Oui, ben, je dirais, la nuance importante que je voudrais amener à ça, c'est que ça, c'est vrai pour des gens qui justement font de l'interurbain comme ça, parce que pour des gens qui restent dans leur ville ou qui restent dans le Grand Montréal, avoir une auto, ça coûte vraiment cher. On n'y pense pas toujours, mais c'est des frais beaucoup plus élevés que des passes de transport en commun. Mais tu as raison, c'est que ça rend le choix financièrement invivable pour tout le monde qui n'est pas dans le Grand Montréal. Et c'est ça, puis tu sais, l'argent, bon, qu'on arrête... C'est parce que parfois, on dit, ah, mais ça coûterait cher d'investir dans le transport en commun, mais en ce moment, on investit là, dans les automobiles. C'est-à-dire que quand on élargit des autoroutes, quand on fait des prolongements de l'entretien, du stationnement, c'est des fonds publics qui font ça aussi. Là. Fait que c'est comme c'est un choix de société qu'on fait de financer ou non le transport collectif et ultimement de permettre aux gens de se passer ou non d'une voiture.
Oui, mais j'ai rien d'autre à dire. Je trouve ça vraiment. Mais c'est exactement ça. Puis je ne veux pas non plus partir dans une envolée là-dessus, mais ça, c'est qu'on décide de prioriser en fait l'automobile solo, les infrastructures reliées à ça, au lieu d'investir dans un système de transport en commun qui fait juste complètement continuer à un peu se décliner de toute façon. Et parce que là, on parle de l'aspect plus écologique et efficacité. Est-ce que selon toi, par contre, Amigo Express, qui est de plus en plus populaire, qui est en quelque sorte l'auto-partage, est-ce que c'est une bonne solution?
Oui. Amigo Express, là, juste pour être dans l'exactitude des termes, c'est du covoiturage. Là, autopartage, c'est plus quand tu te partages une voiture. Là, c'est-à-dire qu'on peut... toi, tu peux la prendre un jour, moi, j'apprends une autre journée. Là. C'est une nuance, bref. Mais... c'est juste que je suis bien dans le sujet en ce moment. Là, mais Amigo Express, c'est génial pour les gens qui ont à voyager sur ces lignes. Okay? D'un point de vue personnel, c'est le fun. Ça ne coûte pas cher. Là, c'est souvent 10, 15, 20 $ pour des lifts. Tu peux t'arranger pour des gens avec du monde. C'est ponctuellement, c'est bien, c'est une belle communauté, ça permet aux gens qui ont une voiture aussi de rentabiliser leur déplacement, puis c'est bien mieux que rien. Là. Mais c'est pas comme une solution structurante de société. Tu peux pas planifier ta vie en fonction que j'espère que quelqu'un sur Amigo Express va pouvoir me prendre. T'sais, c'est des départs qui sont pas non plus comme garantis de la même façon qu'un transport en commun fiable, qu'il y a des départs à des heures fixes, un horaire régulier. Tu ne retrouves pas ça dans les systèmes de covoiturage. C'est comme tu te bases sur le bon vouloir communautaire, qui n'est pas rien, là, pour assurer ce que, d'après moi, un transport collectif public devrait assurer.
On est très loin d'un service public, comme tu dis. Là, c'est vraiment ça. Oui, je pense que l'aspect communautaire peut patcher les trous, mais ça n'aurait pas... Je pense que la façon de répondre à ça, puis je pense que c'est un système public réel, tu sais, qui est efficace et structuré, institutionnalisé, et voilà.
Comme on a dans le Grand Montréal, avec des bons résultats.
Là, on a beaucoup parlé de bus et tout. Là, je voulais qu'on parle d'un truc, moi j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les trains dans la vie. J'aime vraiment ça, j'aime ça prendre le train. Je trouve que c'est... Pourquoi... Au Québec et au Canada, il y a très peu de déplacements en train. Pourquoi c'est si... on parlait de prix tantôt, là. Si vous pensez que les bus, c'est cher, les trains, c'est complètement démesuré comment ça coûte cher prendre le train au Québec et au Canada. Mais pourquoi il y a si peu de trains? C'est parce que, mettons, est-ce que c'est parce qu'on a un trop grand territoire?
Oui, c'est une bonne question, puis je ne sais pas si je vais pouvoir répondre comme exactement à toutes ces questions-là, mais je vais quand même faire un petit portrait de la situation du train au Québec, puis si tu as des questions, n'hésite pas, je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. mais comme c'est beaucoup moins utilisé au Québec, je connais moins le sujet. On a un petit peu mentionné là, tantôt les trains de banlieue, puis je veux juste revenir là-dessus vite parce qu'au Canada, il y a 3 villes qui ont des trains de banlieue, Vancouver, Toronto, Montréal. Puis ici, on a 5 lignes actives en ce moment là, qui desservent les villes des couronnes. Puis ça, c'est assez peu utilisé depuis le début de la pandémie, là, malgré que c'est public, que c'est financé et que c'est pas cher là, prendre les trains de banlieue. Depuis la pandémie, là, vraiment, avec la montée du télétravail, il n'y a presque personne dans ces trains-là. Puis la raison, bien, c'est principalement parce que c'est des lignes qui sont faites pour les travailleurs. Il y a à peu près juste des départs aux heures de pointe dans le sens du trafic. T'sais, je pense qu'il y a des heures,
sur les heures de travail. Il y a pas de
départ, c'est ça. Si tu veux rentrer travailler à Montréal le matin puis sortir le soir autour de l'heure du souper, c'est parfait. Mais sinon, là, je pense qu'il n'y a même pas de service la fin de semaine sur toutes les lignes. Il y en a peut-être une ou deux qui en ont, mais ça donne une idée quand même.
Ouais.
Fait qu'on a ça, mettons, qui est ce qu'on a de plus fonctionnel dans le Grand Montréal côté train. Mais ce n'est pas très utilisé, ça, pour les raisons que je viens de mentionner. C'est vraiment que du commuter. Là. Après ça, bon, pour ce qui sort à l'extérieur des banlieues de Montréal, toi, tu disais que tu aimais prendre le train. Là. Ton expérience, j'imagine que c'est avec Via Rail.
Oui, c'était Via Rail, c'était Montréal-Ottawa.
OK. Bon, ben, jusqu'à... Mettons, tu sais, qu'on y va jusqu'à environ la Deuxième Guerre mondiale, là, les trains de passagers, c'était populaire au Québec. Il y avait des compagnies comme CP et CN. Que vous avez peut-être vu, Canadian Pacific, Canadian National, je pense, qui opéraient les trains. Mais avec la montée en popularité de l'automobile, comme on a parlé plus tôt, ben, c'est devenu moins populaire. Puis dans les années 60, c'était comme plus viable financièrement. Fait que là, je simplifie, là, mais en gros, le CP et CN ont laissé tomber les trains de passagers. Ils sont concentrés juste sur la marchandise. Puis depuis, au Canada, c'est principalement des marchandises, le transport ferroviaire. Mais pour qu'il y ait quand même encore un peu de transport de passagers, il y a eu la création d'une société de la couronne, là, qui est un peu comme une société d'État, Via Rail, qui opère la majorité des trains de passagers. C'est ça son mandat. Et peux-tu me dire, qu'est-ce que tu penses du service de Via Rail?
Ben, moi, sincèrement, je l'ai utilisé qu'une seule fois, c'est le problème. Mais je sais qu'il y a plusieurs problèmes liés à Via Rail. C'est pour ça qu'il est très peu utilisé. C'est pourquoi ça fonctionne si mal.
Oui, c'est ça, tu dis, ça fonctionne si mal. Effectivement, ça n'a pas une très bonne réputation, là, les trains.
Vraiment pas, on s'entend. Les gens parlent rarement positivement de Via Rail comme étant un moyen de transport qu'ils utilisent de façon régulière.
Tout à fait. Je dirais que les principaux problèmes que les gens observent de ce que j'entends, c'est que c'est des trains qui sont souvent en retard et dont le prix des billets est assez élevé, ce qui n'est pas vraiment ce que tu veux dans du transport en commun. Ben, au fil des ans, le budget de Via Rail, je t'épargne le long historique, là, mais a été coupé à plusieurs reprises. Il y a eu beaucoup de lignes qui ont carrément été coupées à cause de ces baisses de budget-là, des grosses baisses de services. L'équipement est vieillissant aussi. Fait que ça, c'est lié évidemment au fait, comme on en a parlé, augmentation de la voiture, diminution du recours au transport en commun, on finance moins une genre de roue qui s'alimente. Puis un autre aspect qui est majeur, c'est qu'aujourd'hui, les trains de Via Rail roulent sur des rails qui ne leur appartiennent pas. Ça appartient aux compagnies qu'on a mentionnées plus tôt, qui font du transport de matériel. Ça fait en sorte que les trains de marchandises opérés par ces compagnies-là ont la priorité sur les voies. Fait qu'en gros, si toi, tu es dans un train passager, mais qu'il y a de la marchandise qui veut passer en même temps que toi, mais elle va avoir priorité, ce qui n'est pas le fun. Ça contribue au fait que 73 % des trains de Via Rail sont considérés à l'heure, ce qui est quand même pas beaucoup. Fait que quand tu couples à ça le fait que c'est pas donné prendre le train, bien... Ça fait un service qui n'est pas vraiment intéressant.
Quand ton billet coûte plus de 100$ pour faire un chemin qui de 2 heures en voiture, puis en plus, tu arrives en retard. Puis moi, ce que j'ai entendu, c'est que ça peut être, c'est pas des petits retards, là, ça peut être facilement des gros retards.
Oui, ça peut être des heures.
C'est pas agréable. Puis d'ailleurs, mais est-ce que, là, on le voit, ça fonctionne pas super bien, il y a une mauvaise cote, mais est-ce que ça pourrait être viable, des vrais projets de train, de transport structurant en train interrégionaux?
Oui, ça, moi, je trouve ça toujours intéressant, le mot « viable » quand on parle de transport en commun, parce que, tu sais, aucun système de transport en commun, ou presque, là, est comme viable économiquement, mais un peu comme on le disait tantôt, c'est la même chose pour les infrastructures automobiles. Est-ce que c'est viable, des autoroutes?
Ce sera jamais parfait.
Avec les plaques, là, tu sais. C'est ça. Fait que ça dépend beaucoup de qu'est-ce qu'on décide de prioriser puis comment on organise les systèmes autour. Tu sais, est-ce qu'un système de train va être utilisé si il n'est pas super bien financé, puis qu'à côté, on a des grosses autoroutes larges, puis le marketing automobile qui nous vend des autos, peut-être que non, il ne sera pas viable. Mais moi, la façon que je le reframe tout le temps, c'est que je ne pense pas que c'est viable d'un point de vue environnemental de se passer du transport en commun. Il y a plusieurs façons là, d'encourager le recours aux transports en commun qui sont des façons extrêmes qu'on ne fait pas en ce moment en Amérique du Nord. Mais mettons, en Europe, il y a certaines liaisons aériennes qui sont rendues interdites parce qu'il y a des trains. Puis ils disent aux gens, ben non, si un train peut le faire en dessous de tant de temps, ben c'est interdit les liaisons d'avion parce que c'est trop fort sur la planète, l'impact. Fait que j'ai comme l'impression que c'est plus cette question-là que j'ai envie, mettons, de poser. Mais on peut se demander, cela dit, si des projets d'autobus peuvent être préférables sur certains corridors. Parce qu'il y en a qui veulent aussi mettre des trains partout, puis que là, c'est comme... Peut-être que dans le fond, c'est juste des autobus là, que ça prend. Peut-être aussi qu'il faut moins se déplacer en général, mais c'est surtout ce genre de questions-là, je pense, qu'on est rendu à se poser.
Tu fais bien de le dire, admettons, de... En fait, dans cette question-là, de savoir qu'est-ce qui est viable, c'est quelle mission on veut accomplir avec ce projet-là.
Oui, exact, exact. Mais tu sais, c'est quand même intéressant, cela dit, là, de se demander si les gens vont l'utiliser, puis comment faire pour qu'ils l'utilisent. Mm-hmm. Puis aussi, non, tu sais, des fois, peut-être que des trains, c'est abusif dans certains cas. Là. Ça se peut.
Et là, ça va être pas mal dans les dernières questions, justement, on parlait de train. Là, récemment, on s'est mis à parler d'un immense projet qui serait de faire, ce serait le Québec-Windsor.
Oui!
C'est quoi ce projet-là rapidement? Pourquoi il est cool? Est-ce que ça peut arriver?
Oui, c'est clairement le projet de train le plus prometteur. Au Canada, là, à peu près la moitié de la population vit dans un même corridor, le corridor qui est contenu entre Québec et Windsor. Windsor, c'est complètement au sud, complètement de la branche de l'Ontario qui s'enfonce dans les États-Unis. Ça passe là, ce corridor-là par les grandes villes là, de Québec, Montréal, Toronto notamment. Et donc, ça fait beaucoup de dizaines de millions de gens qui sont dans un même corridor qui est déjà desservi par Via Rail. Mais comme on l'a mentionné, ce n'est pas des trains très, très fonctionnels. Là, les gens préfèrent fréquemment prendre l'avion plutôt que de prendre le train sur ces distances-là. Puis, il y a comme plusieurs planificateurs de transport commun ou urbanistes qui ont soulevé souvent, genre, « Hey, on est chanceux comme pays que la moitié de notre population habite dans un beau petit corridor, tout bien aligné. Il faut vraiment qu'on améliore la desserte ferroviaire. »
Oui, puis là, avant que tu continues, c'est regardez l'image, là. On est vraiment sur une ligne droite qui peut passer comme entre toutes plein de grandes villes. C'est assez impressionnant comment c'est vrai que c'est comme extrêmement bien situé.
Mm-hmm. Oui, c'est ça. Puis c'est comme une belle chose qu'on devrait exploiter. Ça serait une facile à faire, si on veut. Mm-hmm. Puis là, bon, il y a comme une espèce de bras de fer Québec-Canada gouvernemental à savoir si ça va être un train à grande fréquence, donc qui passe souvent, ou un train à grande vitesse qui parcourt le trajet plus rapidement. Puis ça, c'est pas les mêmes infrastructures, c'est pas les mêmes coûts. Je suis pas très connaisseuse là, des nuances, fait que je veux pas rentrer trop là-dedans. Mais en ce moment, là, celui qui est sur la table, c'est un train à grande fréquence là, qui est dans le plan du gouvernement fédéral parce que le train à grande vitesse est jugé trop coûteux. On verra. Mais ce qui est sûr, c'est que d'améliorer la desserte ferroviaire dans ce corridor-là et de ramener du monde dans les trains, idéalement en interdisant les vols entre les villes qui sont desservies par cette ligne-là, comme ça se fait en Europe, moi, je trouve que c'est dans ce qu'on a de plus prometteur dans le ferroviaire au Québec en ce moment. Au Québec et au Canada.
Je pense que si on crée un vrai système qui fonctionnerait, je pense que ça pourrait être vraiment très utilisé. Là. C'est fou comment ce serait super efficace. Puis je pense qu'après, le monde, ça ne dérangera pas de le subventionner pour qu'il ne coûte pas trop cher aussi. Ça pourrait être vraiment super structurant. Et en termes de conclusion, j'aurais deux dernières questions après. Là, vraiment, on veut ton opinion. Dis-moi, est-ce que, selon toi, par quelle action au Québec on devrait commencer pour améliorer la façon globale de se transporter, de se déplacer au Québec, si on parle de transport en commun. Ce serait quoi l'action que tu ferais, toi?
Oui, je trouve ça intéressant que tu demandes une action parce que, tu sais, j'aurais le goût de te dire, changer toute notre philosophie entourant les déplacements automobiles, mesurer le réel impact environnemental quand on fait des estimations de coûts. Mais vu que tu me demandes une action, là, je vais y aller avec quelque chose de vraiment concret. La première chose que je pense qu'on pourrait faire et qui serait facile à faire, c'est de subventionner le transport interurbain par autocar entre les villes puis améliorer les services. Parce que si on fait cette première étape-là, qui, à mon avis, est accessible, ça permettrait à des gens à l'extérieur du Grand Montréal de tranquillement se mettre à pouvoir considérer vivre sans voiture. Là, ça, je trouve que c'est des premiers pas là, dans notre changement de philosophie. Parce que quand on réussit à vivre sans voiture, on se rend compte de l'impact que ça a sur notre portefeuille, un impact positif, de l'impact que ça a sur notre santé physique, notre santé mentale. Après ça, on peut évidemment avoir de l'autopartage puis d'autres modes qui peuvent nous aider à vivre sans voiture. Mais je trouve que ça serait la première action la plus simple à poser pour avoir le plus d'impact de changement à long terme.
Et mettons, si je te demande de me nommer un projet fou que tu aimerais réaliser, ce serait quoi?
Oui, je pense que je vais être décevante dans
Ouais.
ma question là-dessus, puis j'ai hâte de te la poser en retour, parce que tu vas peut-être avoir quelque chose de plus. Tu sais, moi, je ne rêve pas là, d'un système particulier super futuriste, là. Moi, ce que je rêverais, là, c'est que avec une combinaison d'investissements plus importants dans le transport collectif et aussi moins importants dans les infrastructures automobiles, plus une meilleure mixité des milieux urbains qui permettent là, des villes à concept là, 15 minutes, qu'on puisse choisir de vivre sans voiture n'importe où au Québec, puis que ce ne soit pas un sacrifice. Et toi?
Mon projet, moi, c'est un peu unpopular opinion. En fait, c'est à propos de Montréal. Moi, je crois encore, puis c'était une idée qui avait été présentée à l'époque, à Projet Montréal, à l'époque de Bergeron, ça serait un tramway à Montréal. Je pense que tramway serait cool pour la ville, tous les quartiers plus centraux. Il y avait même des cartes avec ce qu'est tramway. Donc, tu aurais comme trois, quatre lignes qui permettraient de désengorger le métro. Qui servirait plus pour les gens qui font plus de long terme. Et ça servirait vraiment le centre-ville. Je trouve ça beau. Moi, personnellement, les tramways, j'en mettrais ça dans un projet qui aussi amènerait la piétonnisation importante de plusieurs grands artères. Mais je trouve ça beau, des tramways. Je trouve ça intéressant. Puis ce serait vraiment cool. Donc, moi, ce serait un tramway à Montréal, vraiment pour tous les quartiers centraux. Donc, on parlerait d'Outremont, centre-ville, Vieux-Montréal, Rosemont, Plateau, qui pourrait peut-être se rendre même jusqu'à l'entrée de la Chine, ou peut-être bifurquer, mais vraiment plus pour desservir le centre de Montréal, Saint-Henri également. Donc, ce serait vraiment ça, ce projet-là fou, qui pourrait vraiment compléter l'offre de projet, mais l'offre de la STM en termes de métro, mais ce serait ça mon projet
C'est
complètement
intéressant
fou.
que tu dises fou parce qu'on en a déjà eu des tramways à peu près sur ces tracés-là.
Ouais.
Puis je trouve que moi, c'est une des choses qui me donne le plus espoir avec le transport en commun, c'est que ce qu'on veut qu'il soit fait, il y a beaucoup de ces choses-là qui ont déjà existé.
Ouais.
Donc, c'est faisable.
Ouais.
Et je trouve ça quand même encourageant. Quand on regarde des cartes de dessertes ferroviaires ou d'autocars, il y a comme 50, 60, 70 ans, câline que c'était mieux desservi qu'en ce moment. Je ne parle pas du Grand Montréal, je parle de l'extérieur.
Écoute, moi je finirais là-dessus parce que c'est justement, je pense que la conclusion, c'est que je pense que c'est faisable. Je pense que les solutions sont sur la table. Il suffit de volonté réelle.
Tout à fait. Puis de réaliser l'impact environnemental de nos décisions, moi je trouve que
Oui.
ça aide beaucoup à voir
Ouais.
ça non pas comme une dépense, mais un investissement dans notre avenir, comme on dit.
Merci beaucoup, Camille. Merci d'être venu au brunch. C'est vraiment super intéressant. En
C'était
réalité, on
précis.
a enregistré ça plus ce soir, là, mais c'était vraiment très cool.
Oui, ben même chose, n'importe quand par les transports en commun, ça me fait toujours plaisir.
Et si les gens veulent te suivre, est-ce qu'il y a des plateformes, des trucs, voir ton travail? Où est-ce qu'il faut aller?
Ouais, je dirais de suivre le compte Instagram, le compte Facebook, le compte TikTok de 24 heures.
Sur toutes les
C'est
plateformes.
là qu'on, ouais, sur toutes les plateformes. C'est là qu'on partage la plupart de notre contenu. Abonnez-vous, c'est le fun. On publie plein de bonnes affaires.
Merci beaucoup, Camille.
Merci à toi.